Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Trump plus fort que le virus. Voilà ce qu'il fallait sans doute retenir des images du président marchant sur les pelouses de la Maison-Blanche sur fond de musique assez hollywoodienne. Après une hospitalisation de 4 jours, une communication parfois confuse sur son état de santé et une parade en voiture devant ses supporters, Donald Trump, sans masque, a assuré qu'il voulait reprendre sa campagne. Il a lancé aux Américains « N'ayez pas peur du virus », une phrase relayée par son adversaire qui a rappelé quand même que la pandémie avait fait 210 000 morts aux États-Unis. La campagne est naturellement bouleversée par le virus, par l'épidémie. Donald Trump, en quarantaine, va devoir compter maintenant sur son vice-président Mike Pence qui va débattre demain face à Kamala Harris, la colistière de Joe Biden. Un événement très attendu dans cette folle campagne. Alors, Trump est-il vraiment sorti d'affaire? Que sait-on vraiment de son état de santé? Est-ce que la contamination de Donald Trump rebat les cartes? Sort-il renforcé ou affaibli sur le plan politique? Trump plus fort que le virus, c'est une question. Et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au Journal du Dimanche, en charge de l'actualité internationale. Vous avez signé dans le JDD ce week-end un article intitulé « Donald Trump positif au Covid-19, comment Mike Pence va mener campagne pour deux ». Nous y reviendrons dans un instant. Et puis je rappelle votre blog Trump Power. Nicole Bacharan, vous êtes historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Je cite ce soir votre nouvel ouvrage qui vient de paraître « Le monde selon Trump », publié aux éditions Talendier. Elsa Conessa, vous êtes rédactrice en chef aux Échos, ancienne correspondante aux États-Unis. Laurie Canton, enfin, vous êtes maître de conférences à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste de l'histoire de la politique aux États-Unis. À paraître jeudi, votre nouveau livre intitulé « Le rêve américain à l'épreuve » de Donald Trump, publié aux éditions Vendémiaire. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à C'est dans l'air en direct. On va commencer quand même par le bulletin de santé du président américain, François Clémenceau. Qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Parce qu'il y a les vidéos, il y a les communiqués des médecins, je le disais, et puis il y a son état de santé.
Mais justement, c'est ça qui est compliqué, parce qu'il faut être un vrai décrypteur à la fois du langage médical utilisé par son équipe médicale et par le docteur Sean Conley, qui est son médecin. C'est un médecin militaire, il s'occupe de lui depuis 2 ans maintenant. Il faut décrypter ce que dit Donald Trump lui-même et le body language, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qu'il essaye de véhiculer à travers son comportement, en vidéo effectivement, et à travers ses paroles. Et puis il y a tout ce que l'on ne sait pas, c'est-à-dire ce que ne disent pas les médecins et ce que ne dit pas Donald Trump. Et là, il y a des points d'interrogation, par exemple sur le traitement qu'il prend. On dit que c'est un traitement expérimental. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça prouve que son état est grave? Pas grave. Les médecins là-dessus ne sont pas très explicites. On a même entendu l'un des médecins dire que d'ici la fin de la semaine, il faudrait probablement attendre pour savoir si oui ou non Trump est sorti d'affaire. Donc on ne sait pas. Et le pire, ce serait de penser que les images suffisent à nous rassurer. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on voit bien que le chronomètre est enclenché, qu'il reste 27 jours, et que plus le temps passe et plus il devient compliqué pour Donald Trump à la fois de rattraper le temps perdu, le terrain perdu dans les enquêtes d'opinion sur les intentions de vote, et à montrer qu'il exerce la fonction présidentielle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est président jusqu'au 20 janvier, au-delà même de l'élection du 3 novembre.
Et nous allons revenir sur l'incidence que ça a pu avoir sur la campagne. Est-ce que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise affaire sans cynisme, cette contamination pour le président des États-Unis? Mais Nicole Bacharan, c'est intéressant quand même de s'arrêter sur comment est-ce que la Maison-Blanche a voulu raconter cette histoire et comment il y a eu des cafouillages, vous le disiez à l'instant, dans la communication, avec ce week-end quand même des mots assez alarmistes.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il faut d'abord dire ce qui est normal.
Oui, voilà.
C'est normal de ne pas dire toute la vérité sur la santé d'un chef d'État, même si on est dans une époque où on veut la transparence. Il n'y a pas que Donald Trump qui ne donne pas toute la vérité. C'est normal que les médecins, eux aussi, soient tenus à ne pas dire toute la vérité. Et c'est normal que le président veuille montrer « je suis aux commandes ». Là, on est dans une forme… Voilà, là, c'est régulier, si j'ose dire. Après, on passe à Donald Trump. François évoquait très justement ce traitement pour ce qu'on nous en a dit, parce qu'on ne sait pas forcément tout. Mais moi, ça m'a donné le sentiment d'un monsieur qui dit « donnez-moi tout, les anticorps, les stéroïdes, tout le cocktail, voilà, etc., donnez-moi tout ». Est-ce qu'il offre son corps à la science? Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'on peut dire, sans méchanceté ni exagération, qu'il est sorti de là dopé comme un athlète d'Allemagne de l'Est. Hein, franchement, avec des effets peut-être un peu euphorisants. Il est certain qu'il est bien là, qu'il a de la vigueur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est quasiment certain aussi qu'il est contagieux. S'il ne l'était plus, on le saurait. Et donc, il met en danger les gens autour de lui. Les gens du Secret Service qui sont chargés de le protéger, c'est des gens entraînés et qui, si on attaque le président, ils vont au-devant du danger, ils sont prêts à prendre une balle, ils sont prêts à mourir. Être enfermé, bouclé dans une voiture avec un président contagieux...
Masqué,
mais contagieux, dans la période la plus contagieuse, certainement, pour faire un tour de piste électorale, c'est pas leur travail. Et le retour à la Maison-Blanche, là, je pense que François est d'accord avec moi, c'est un retour dont on ne sait rien, finalement. C'est un lieu qui peut être très médicalisé, la Maison-Blanche. D'accord. Il va d'un véritable hôpital à un endroit qui est presque un hôpital, mais évidemment, avec cet avantage de dire voilà, je suis aux commandes.
Le symbole, c'était je reprends mes fonctions.
Exactement.
Totalement. Elsa connaît ça, encore un mot sur la façon dont les choses ont été racontées par la Maison-Blanche.
Oui, bah, je trouve que là, on est en plein dans la mise en scène de Trump, quoi. Et c'est tout à fait ça qu'attendent ses électeurs. Donc, comme vous le disiez, je pense qu'il ressort, enfin, politiquement, en tout cas pas affaibli de la séquence, l'arrivée en hélicoptère, l'apparition.
On va aller voir ces images. Elles sont assez incroyables.
C'est incroyable, c'est la reine d'Angleterre. Quoi. Il apparaît au balcon, il enlève le masque. Bon, quand on regarde de près, effectivement, il respire un peu difficilement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des plans trop près.
C'est important ce que vous dites, parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de... Tout est commenté, oui. Hein, sur le moindre détail de ces interventions. On essayait de voir s'il y avait des montages, etc. Mm. Et cette intervention, beaucoup le voient très essoufflé dans sa manière de s'exprimer. Oui. Donc, ça a donné lieu à des spéculations aux États-Unis.
Oui, forcément. Mais ça m'a rappelé, en fait, un épisode de la campagne de 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de la commémoration du 11 septembre 2016, donc vraiment très peu de temps avant l'élection, Hillary Clinton avait fait un malaise, en fait, qui avait été capté par les caméras. Je ne sais plus si c'était des gens présents qui avaient filmé ça avec leur portable. Mais en tout cas, il y avait des images terribles pour elle, où elle était... Elle perdait l'équilibre. Elle avait deux gardes du corps ou conseillers qui la tenaient par les coudes et qui l'avaient évacuée. C'était absolument redoutable pour sa campagne. Et ça avait alimenté toutes les attaques de Trump sur le thème « She doesn't have the stamina », elle n'a pas l'endurance, elle n'a pas la pêche, elle n'a pas la niaque, elle n'est pas assez costaud, alors qu'ils ont le même âge, en fait, hein, un peu de choses près. Mais il m'a semblé... Pardon ?
Ça avait pesé ?
Je crois que ça, je me souviens plus précisément de la séquence et des mois qui avaient suivi, mais oui, ça avait vraiment accrédité l'idée qu'elle elle aurait du mal à tenir 4 ans, quoi.
Mais Gantton, juste pour revenir sur toutes les images qui ont été décryptées, on en parlait, on ne va pas trahir de secret, mais avant le début de l'émission, certains sont même allés essayer d'enquêter pour savoir si les papiers qu'ils signaient étaient vraiment des documents officiels.
En fait, quand on zoome, il y a plusieurs choses. Quand on zoome, on voit que c'est des pages blanches, donc c'est pas des décrets ou enfin il y a pas de texte quoi. Quand ils montrent très, parce que il y a toute une mise en scène de l'exercice du pouvoir. Ils montrent à la Maison Blanche
quand
ils signent des décrets avec son énorme signature. On voit bien que c'est des textes officiels. On n'arrive pas à lire, mais on voit qu'il y a quelque chose. Là, on voit des images de très bonne qualité, donc on peut zoomer, on voit qu'ils signent des pages blanches. Donc ça, c'est un côté pas très réglo au niveau bureaucratique. En plus, bon, il y a eu des tas de petits malins qui sont allés regarder dans les métadonnées des photos, puisque maintenant, on a accès à tout ça. Donc, ils ont vu le temps qu'il y avait entre deux photos et qu'en gros, on l'a sorti de sa chambre, on lui a mis une veste, on l'a mis dans une autre pièce, on lui a enlevé sa veste, il a signé 2-3 papiers, on l'a remis dans sa chambre. Et donc, il n'était pas vraiment... Ça nie un petit peu le récit, le narratif du Trump qui est là, qui demande des dossiers, qui s'ennuie. En fait, il a regardé la télé pendant pratiquement tout le temps et il n'a même pas pu aller sur Twitter pendant pratiquement tout le temps. Donc, il n'en pouvait plus.
Ouais. 68% des Américains n'ont pas confiance dans ce que dit la Maison-Blanche sur la santé de Donald Trump. Mmh. C'est pas une surprise. Ils ont raison.
Ils ont raison.
Oui. Vous avez dit, le récit, c'était, parce que c'est ce qui a accompagné toutes ces journées d'hospitalisation, c'était, il est comme un lion en cage, il peut sortir, c'est ça.
D'une certaine manière, c'est vrai, au début, il était un petit peu faiblard, et c'est vrai que sa première intervention, il avait un petit peu la voix, c'était pas la voix des grands jours, il était pas maquillé en plus, donc tout le monde s'est dit, oh là là, il est pâle. En fait, non, c'est sa tête normale, hein, c'est juste qu'on le voit toujours un petit peu orange, mais quand on le voit normal, forcément, ça fait étrange, donc on s'est dit, ouh, il doit avoir quelque chose. Et puis finalement, c'est vrai que comme il est quand même bien dopé, quoi. Il est dans un état qui lui permet au moins de donner l'illusion
d'être en bonne forme et de se sentir comme il y a 20 ans, comme il dit. Donc il y a énormément de communication. Après, ce que disaient les médecins, et c'est là qu'il y a vraiment une sorte de frottement en fait, entre les différents discours. Il y a un troisième discours qu'on n'a pas mentionné, c'était les sources anonymes de samedi soir, où les Trumpistes disaient « c'est des sources anonymes du New York Times, ça n'existe pas ». Ensuite, on s'est rendu compte très rapidement que c'était Mark Meadows, qui est quand même assez haut dans l'organigramme, qui a pris les journalistes en off, et on l'a su en une demi-heure que c'était Mark Meadows, et qui était quand même assez alarmiste. Les médecins disent aussi qu'il n'est pas tiré d'affaire et qu'ils sont assez inquiets sur
la suite.
Une éventuelle rechute, parce qu'on a quand même vu ça pas mal. Et il est quand même, pendant la semaine qui vient, sous observation, parce que...
Quand il dit « je reprends ma campagne », on est d'accord que pour l'instant, il ne peut pas sortir, il est toujours en quarantaine à la Maison-Blanche, Donald Trump.
Oui, c'est une campagne qui se fait pour l'instant sur Twitter, sur les réseaux sociaux, avec des vidéos. Et vous avez vu qu'il a repris à un rythme absolument effréné le Twitter, avec des tweets quasiment toutes les deux minutes sur les grands thèmes de sa campagne,
ça,
précisément, et en quelques lignes.
Et on va en parler de sa campagne. Je voudrais juste quand même un mot sur Melania Trump.
Mélanie,
elle
n'a
pas
aussi...
été hospitalisée.
Non, mais elle est infectée. Elle a les premiers symptômes. Ils sont moins graves que ceux de son mari. Et donc, elle est à l'isolement. Et... Alors, on sait de toute façon qu'ils n'avaient pas une vie commune non plus si proche qu'ils pouvaient risquer quoi que ce soit tous les deux. Mais c'est vrai, c'est une forme dure, parce que j'imagine qu'elle a été infectée en même temps que lui, ou en tout cas dans les mêmes circonstances. Et ce qui est terrible, il faut le rappeler, c'est que vous avez autour de Trump, à la fois dans sa famille et parmi ses collaborateurs, des dizaines de gens qui sont infectés, qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent même plus être, j'allais dire, en télétravail ou en relation avec le travail de la Maison-Blanche. Donc on a quand même une Maison-Blanche, si vous voulez, qui est quand même un peu sous oxygène, quoi, si je puis dire.
De retour à la Maison-Blanche, le président américain multiplie, on l'a compris, les signaux pour rassurer sur son état de santé. Il faut dire que pendant son hospitalisation, la communication des médecins et des proches a été plutôt confuse. Pour reprendre la main, il a opté pour une mise en scène à l'américaine. Magali Lacrose, Christophe Roquet.
Le retour du président à la Maison-Blanche hier. Soigneusement mise en scène sur les réseaux sociaux, comme au cinéma. Comme s'il revenait en héros après un long combat. Donald Trump, infecté au Covid-19, a passé 3 jours à l'hôpital. Et contre toutes les mesures sanitaires actuelles, il enlève ostensiblement son masque, comme si la guerre contre le virus était gagnée.
J'ai tellement appris sur le coronavirus. Une chose est sûre, ne le laissez pas vous contrôler. N'en ayez pas peur, vous allez le vaincre. Moi, je vais mieux maintenant. Je suis peut-être immunisé, je ne sais pas. Mais ne laissez pas le virus contrôler vos vies. Sortez et soyez prudents.
Une communication et un discours jugés très sévèrement par son adversaire démocrate Joe Biden, qui accuse le président d'irresponsabilité.
J'aurais espéré que le président, ayant vécu tout ce qu'il a vécu, et je suis heureux qu'il ait l'air d'aller mieux, j'aurais espéré qu'il envoie un autre message à sa sortie d'hôpital. Les masques sont essentiels. Au lieu de cela, non, il explique qu'il ne faut pas trop s'en faire. Non, c'est inquiétant, 210 000 personnes sont mortes du Covid.
Tout aurait commencé le 26 septembre dernier. Le président américain et sa femme Melania reçoivent Annie Coney Barrett et sa famille pour sa nomination officielle à la Cour suprême. Sans masque et sans distance sociale. Quelques jours plus tard, 7 participants à la cérémonie sont contaminés au Covid-19. Et parmi eux, le président. Admis à l'hôpital vendredi, les médecins se veulent rassurants sur son état de santé. D'autres sources le sont un peu moins. Et voilà, dimanche, que Donald Trump, pourtant hospitalisé, s'autorise une petite sortie de l'hôpital pour saluer ses partisans. Réaction furieuse d'un des médecins de l'hôpital, inquiet pour les autres passagers du convoi.
Chaque personne présente dans ce véhicule doit maintenant être placée en quarantaine pendant 14 jours. Ils peuvent tomber malades, ils peuvent mourir pour du théâtre politique.
Alors que la liste des contaminations à la Maison-Blanche s'allonge, le président est autorisé à rentrer chez lui hier.
Même s'il n'est pas totalement sorti d'affaire, l'ensemble de l'équipe médicale et moi-même, après évaluation clinique, autorisons le retour du président chez lui, où il sera entouré par une équipe médicale 7 jours sur 7.
L'épisode nourrit une fois de plus les accusations contre la gestion de crise sanitaire du président américain, qui minimise l'épidémie et ses conséquences depuis le début de la crise. Il le reconnaît dans une interview accordée à Bob Woodward, le journaliste du Watergate.
J'ai toujours voulu minimiser la situation. Je le fais encore parce que je ne veux pas créer la panique générale.
Et en effet, semaine après semaine...
Ça va disparaître un jour. Comme par miracle, ça va disparaître.
Le président dédramatise.
Restez calme, ça va disparaître, le virus est en train de disparaître et nous allons gagner.
Alors même que la courbe des contaminations est exponentielle aux États-Unis, alors même que le président est tout à fait conscient de la gravité du virus.
C'est un virus très pernicieux. Il est très délicat à gérer. Il est bien plus mortel que la grippe ordinaire. C'est un truc mortel.
65% des Américains estiment pourtant que le président aurait pu éviter d'être contaminé au Covid-19 s'il avait pris le virus un peu plus au sérieux.
Et nous avons tous réagi sur cette phrase hein, qu'il a confiée à Bob Woodward, « This is a deadly stuff ». Finalement, il l'a minimisé au-devant des Américains.
Il l'a minimisé volontairement et il continue à le faire. Et c'est le plus grave parce que non seulement lui, tant mieux s'il va mieux, évidemment, tant mieux s'il guérit, on a suffisamment de pagailles dans cette présidence et cette élection, mais qui sont les Américains qui peuvent avoir accès à ces traitements ? À ces traitements absolument de luxe et qui coûtent très cher et dont on aimerait savoir si le président les utilise, s'ils sont effectivement efficaces. Que le président ait un traitement de faveur, ça n'est pas normal. Qu'il en tire un enseignement pour dire, eh ben, vous voyez...
N'ayez pas peur.
Voilà, n'ayez pas peur. C'est dramatique de dire n'ayez pas peur. Et cette mise en scène du retour en hélicoptère avec cette musique de triomphe, c'est une image tellement... exact de la présidence Trump. C'est l'image du héros qui revient après le combat et qui a vaincu.
Cette question, regardez, la Covid-19 vaincue. En à peine quelques jours, Trump ne va-t-il pas jouer désormais la carte de l'homme fort invincible ? Mais c'est exactement ce que veulent voir ses électeurs.
Exactement. Et or, ces images quasiment militaires, c'est juste un homme, président, certes, qui a attrapé le virus parce qu'il a refusé de prendre les précautions élémentaires et qui est très bien soigné et on est content pour lui. Il n'a pas fait un exploit pour la sécurité du pays.
J'entends ce que vous dites, Nicole
Bacharan,
mais si on se remet dans l'idée que c'est un président en campagne qui aussi parle et qui fait de la politique, là, il envoie un message à sa famille politique, il envoie un message à ses électeurs.
Oui, mais regardez, la comparaison est peut-être difficile à faire, mais tout de même, Boris Johnson, au mois d'avril, un mois après l'apparition du virus en Grande-Bretagne, il est lui-même infecté. Il part à l'hôpital. Grave. Oui. Il en sort. La première chose qu'il dit, c'est « j'ai tout compris, j'ai peut-être été trop léger. À partir de maintenant, on va prendre tout ça très au sérieux. » Et il ordonne des mesures beaucoup plus dures. Alors évidemment, elles ont été temporaires, elles ont été remises en cause plus tard, etc. Mais Boris Johnson, il ne fait aucun doute qu'il a tiré les leçons de cette pandémie et qu'il les a appliquées avec toutes les limites des manœuvres que les chefs politiques des grands pays affectés prennent. Bon, là, c'est totalement différent. On a un président qui minimise pendant tout le printemps le danger de cette maladie et qui, une fois qu'il est entré en campagne, estime que tout le monde doit aller dehors, qu'il faut aller faire les meetings, que personne ne doit porter le masque, qui dit aux journalistes « portez le masque, mais je ne vous entends pas, arrêtez avec ce truc, ce gadget politiquement correct ». Il donne des indications, si vous voulez, qui, sur un plan purement sanitaire, sont catastrophiques. Et maintenant qu'il a été lui-même infecté, il retire son masque et il dit « allez-y dehors, soyez prudents, mais... On va gagner. Il y a un vrai souci. Oui, je pense qu'il met en danger la vie d'autrui, mais en même temps, c'est clair, et on a raison de le souligner, c'est effectivement ce que ses électeurs attendent. Est-ce que pour autant, lorsqu'on est président des États-Unis, il ne faut faire que ce que vos électeurs vous demandent, ou est-ce qu'il ne faut pas avoir un réflexe un tout petit peu plus global et de se dire la société américaine en tant que telle, c'est 325 millions d'habitants et pas uniquement mes électeurs qui se moquent comme de l'an 40 de ce virus et qui sont prêts à mourir parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la même chose.
il s'adresse à des... Alors le problème, c'est que le gain politique est sûrement assez minime, parce qu'il s'adresse à des gens qui veulent entendre ça, et il ne s'adresse pas à ceux qui sont de toute façon pas prêts à l'entendre. Et au milieu, on n'a plus grand monde à convaincre. Même si ce marginal peut être décisif ici et là, mais grosso modo, en fait, il s'adresse à des gens qui ont besoin de voir une confirmation que la masculinité américaine n'est pas en danger, que les féministes, etc., ne sont pas en train de rogner cette masculinité hétérosexuelle qui se
voit. C'est une démonstration de virilité, là, cette
séquence.
Mais
oui, contre le politiquement correct, comme disait François. Et toute cette espèce de mouvance, tout ce qui est les études critiques à l'université, qui rogne un petit peu ce statut, disons, sur un piédestal de l'homme américain hétérosexuel, etc., qui se voit en danger. Et Trump est le défenseur, c'est l'incarnation du macho man qui va, par son comportement, montrer que, eh ben non, il n'est pas condamné à être marginalisé, il reste au milieu de l'image.
Ça devient un argument de campagne. Ses proches disent, c'est la directrice de communication de la campagne de Trump qui dit, il a une expérience personnelle maintenant dans la lutte contre le coronavirus, Biden ne l'a pas.
C'est extraordinaire.
Moi je l'ai eu, moi je sais, toi tu ne sais pas.
C'est pas faux, de fait, on peut difficilement contester ça. Après, juste par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que, enfin, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais aux États-Unis, c'est que cette idée européenne que l'État, le président, est responsable de tout, ça ne fonctionne pas là-bas. En fait, c'est un pays où il n'y a pas de politique de santé publique, hein, en clair. Indépendamment du virus, il n'y a même pas de vaccin obligatoire aux États-Unis. C'est au niveau des États, voire des municipalités, que ça se décide. Donc cette idée que, en fait, la situation sanitaire, elle est, c'est quelque chose qu'on peut imputer à Trump, qu'il est responsable de la situation catastrophique du pays, je pense que c'est une idée... qui est un peu, enfin, pas un peu
biaisé
fausse,
par notre
biaisé,
regard.
Voilà, je pense. Les Américains raisonnent au niveau de leur État, de leur gouverneur. Les décisions de lockdown ont été prises au niveau des gouverneurs. Et je ne pense pas qu'en tout cas dans son électorat et peut-être même chez les indécis, le fait qu'ils portent un masque ou non et qu'ils disent « n'ayez pas peur », ça fasse fondamentalement basculer leur sentiment.
Il n'y aura pas d'incidence de cet événement sur la campagne, François Clémenceau ?
Si, probablement.
Incidence politique, naturellement.
C'est toujours difficile à dire, mais on voit bien quand même qu'il y a deux discours. On aurait pu croire, par exemple, que les gouverneurs qui ont pris des mesures assez tôt et assez fortes pour pouvoir limiter la circulation du virus, que ces gouverneurs seraient soutenus par la Maison-Blanche. Ils ne l'ont pas été. Donc il y a quand même une responsabilité, je suis d'accord avec ce que dit Elsa. C'est vrai qu'on ne vit pas dans un pays où l'État décide de tout, très clairement. Mais il peut y avoir un discours présidentiel qui consiste à dire « je suis le président de tous les Américains » et donc quand un gouverneur prend une bonne décision, je le soutiens. Or, il s'est déclaré lui-même et son administration en guerre contre tous les gouverneurs qui décrétaient des mesures très restrictives contre la circulation du virus et qui ont fermé, c'est vrai, une partie de l'économie américaine. Donc, bien entendu que pour l'ensemble du pays, c'est grave et le président des États-Unis doit comprendre ça. Quand une partie du pays est à l'arrêt, bien entendu que c'est problématique. Mais en même temps, la santé de tous les Américains, il n'y a pas de politique de santé publique, je suis bien d'accord avec ça, on peut le regretter d'ailleurs, mais toujours est-il que le président a une voix qui est écoutée, et il aurait pu s'en servir pour précisément aller dans le sens qu'un certain nombre
François
de gouverneurs
Clémenceau...
et pas uniquement des ennemis politiques du président Trump. Vous avez aussi les gouverneurs républicains qui ont su prendre les bonnes décisions.
François Clémenceau, vous n'attendiez pas, après avoir entendu les multiples déclarations de Donald Trump sur la façon de combattre le virus ou d'imaginer qu'il allait disparaître, que... Après un passage à l'hôpital, il allait changer de stratégie, si ?
Boris Johnson l'a fait. D'autres chefs d'État l'ont fait aussi ailleurs dans le monde. Mais regardez, Bolsonaro, c'est vrai, a adopté exactement le même genre d'attitude. Donc, on voit bien que c'est une question de caractère, on voit bien que c'est une question de culture politique et de culture personnelle, j'allais dire aussi de narcissisme, entre ce président qui veut exister, qui veut être dans la lumière, et qui, le jour où il disparaît 3 jours à l'hôpital, a l'impression qu'il n'existe plus.
Vous dites disparaît à l'hôpital, on fait la remarque qu'un président d'États-Unis ne peut pas totalement disparaître. Voilà pourquoi on peut critiquer les images, peut-être la mise en scène, mais il était indispensable qu'il se montre.
Bien sûr. Sur le fond, soit il est capable d'exercer la fonction et il faut qu'il le montre, soit il ne l'est pas. Il n'a évidemment pas lâché les rênes. Vous savez qu'il y a une procédure qui fait que si le président n'est pas capable, par exemple parce qu'il est malade ou parce qu'il doit subir une intervention chirurgicale, pas capable d'exercer la fonction, même brièvement, il doit signer une lettre adressée au Congrès disant « je transmets temporairement mes pouvoirs au vice-président, et quand il émerge de l'anesthésie, ça a été 2 fois le cas pour George W. Bush, il réécrit, il re-signe une petite lettre disant « je reprends mes fonctions ». Donald Trump, c'est Donald Trump, mais c'est le président des États-Unis. Et là, le pays, il est très vulnérable. On sait que c'est une pagaille totale à la Maison-Blanche. On sait que la plupart des gens ne peuvent plus travailler. Et chaque jour, il y a des décisions qui se prennent dans le monde par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit en cybersécurité, que ce soit même sur des terrains militaires, etc. Là, les États-Unis sont vulnérables. Donc, que le président montre qu'il est bien vivant, qu'il gouverne, c'est important. Qu'il aille jusqu'à dire, car c'est le fond de son discours, « Moi, je suis fort, et c'est pour les faibles, la maladie et la mort du virus. » Honnêtement, je vous le dis simplement, je trouve ça odieux. Il y a des gens jeunes, vieux, gros, maigres, forts et faibles, courageux.
C'est ce que lui a dit Joe Biden, précisément.
Qui en sont morts.
C'est ce que lui a dit précisément Joe Biden, qui a dit... je voudrais, n'ayez pas peur, très bien, que dites-vous aux 210 000
virus,
Américains
qui sont, fort et pas fort.
Qui sont morts du Covid, de Rickenton.
Il y a deux choses, c'est que c'est un hyper-président qui a été aussi hyper-présent, il tweet à longueur de journée, donc dès qu'il ne tweet pas pendant une heure, on lance un avis de recherche. Donc forcément, pendant trois jours d'absence de Trump, ça passe un peu moins inaperçu que les présidents précédents, surtout à l'époque de Twitter, où on est en marche toute la journée. Mais l'autre point, c'est que sa seule planche de salut, c'est l'économie. Donc dès l'instant où des gouverneurs qui ne sont pas lui décident de fermer l'économie, lui, la seule condition de sa réélection, elle disparaît. On lui prend sa réélection. Quelqu'un d'autre lui prend sa réélection. C'est le seul domaine sur lequel les électeurs lui donnent plus ou moins le bénéfice du doute. Sur tous les autres sujets, il est défavorablement apprécié.
La question que tout le monde sans doute s'est posée quand on a appris son hospitalisation, c'est comment cela influe sur la campagne ? Est-ce que maintenant qu'il est sorti, on a, en peut-être lisant la presse américaine ou en regardant les enquêtes d'opinion, est-ce que vous avez la réponse à cette question ? Est-ce que ça va jouer ? Est-ce que ça peut le plomber ? Y compris d'ailleurs ce qu'il a dit à la sortie. Comment est-ce que c'est perçu, cette petite balade en voiture avec ses officiers de sécurité, même masqués alors qu'il était encore contaminé ? Ce qui est compliqué à apprécier, c'est est-ce que c'est un point positif, entre guillemets, et sans encore une fois son cynisme, ce qui lui est arrivé, ou est-ce qu'il peut le payer parce qu'il a mal géré la sortie ?
Les apparitions, c'est plutôt à mettre à son crédit, je pense, vis-à-vis de son électorat. Je ne pense pas que ça fasse changer radicalement le cours de la campagne. En revanche, ce qui peut vraiment pénaliser sa campagne, c'est s'il peut faire des meetings. Ça, c'est vraiment, parce que même en tant que président, même en dehors de toute période électorale, ce qu'il préfère, c'est faire des meetings. Il en a fait tout le temps. Depuis qu'il a pris le pouvoir début 2017, il a été tout le temps sur la route à faire des énormes rallies avec des dizaines de milliers de gens. Et quand il est privé de ça, là, vraiment, il dépérit. Et le fait que ce soit Mike Pence, potentiellement, qui doivent le remplacer, ça, c'est quand même globalement une assez mauvaise nouvelle.
Donc, on parlait de Mike Pence, mais voilà, effectivement, mais, pour l'instant, mais le fait qu'il même s'il dit « je reprends ma campagne », en réalité, il ne peut pas le faire.
Il ne peut pas, enfin, en tout cas pour quelques jours.
On va voir si le 15 octobre, il participe à ce deuxième débat qui est prévu avec Joe Biden, qui ne sera pas sous la forme d'un débat comme celui qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire tous les deux debout derrière un pupitre.
Il a dit oui à l'instant, je vous le dis juste, il vient de tweeter en disant « je participerai à ce débat ».
Alors ce sera sous la forme de ce qu'on appelle un town hall, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux face au public et le public pose les questions par l'intermédiaire des journalistes. Autrement dit, c'est un peu comme s'ils étaient tous les deux sur des tréteaux de campagne, si vous voulez, mais ça n'est plus le journaliste qui pose les questions, c'est le public, avec un public qui a été présélectionné. Et généralement, on s'est aperçu dans ce genre de circonstances que généralement, le débat était beaucoup plus, j'allais dire, moins langue de bois, plus proche des préoccupations des gens. Et alors, peut-être avec moins de possibilités de s'invectiver, comme on l'a vu la dernière fois.
Est-ce que Biden, qui paraît-il fait preuve de beaucoup de compassion, est un homme de cœur, a fait preuve de compassion vis-à-vis de Donald Trump ? Qu'a-t-il dit lorsqu'on en a entendu un très court extrait tout à l'heure ? Mais est-ce qu'il a été au chevet du président des États-Unis ?
Il a été très habile parce qu'il a été très beau joueur. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il n'a pas du tout politisé. Dans un premier temps, il a dit un bon rétablissement au président. Il n'a pas dit haha, que ça vous serve de leçon. Ça, c'est venu après. Et puis surtout, il y a une répartition des rôles. Biden a été dans la compassion, l'empathie, etc. Parce que c'est aussi ce qui fait sa marque de fabrique et une de ses qualités principales. Et c'est l'entourage qui est allé de manière un petit peu plus franco et de manière un peu plus politique. Donc il y a une répartition des rôles qui est très habile parce que Biden sort grandi de ça. Il n'a pas fait de faux pas. Il n'a pas fait preuve d'indépendance. Délicatesse, il n'a pas fait preuve de cynisme et de ce point de vue-là, c'est il aurait pu, parce que c'était très tentant, de dire
oui, bien sûr.
Vous l'avez bien cherché, Monsieur le Président.
Il ne l'a pas fait.
Quand il a été politique, du genre, vous voyez, le masque, ça sert à quelque chose. Ça a été vraiment à la fin de ses déclarations et de ce point de vue-là, c'était là, pas tout de suite et très léger.
Donc, il était, hein, Joe Biden, à la réunion qu'on a vue tout à l'heure où personne n'était masqué. Peut-être lui, il était, mais il a été testé négatif, hein, Joe Biden.
Oui.
Il a été testé, je veux dire, il y a eu un doute sur son état de santé aussi.
Oui, il fait des tests régulièrement.
Bien sûr.
Vous voulez dire un mot sur la façon dont les démocrates ont géré ce moment-là?
Oui, il n'y avait pas, d'autre chose à faire. On ne tape pas sur un homme malade. Enfin, ce serait odieux. Et donc, évidemment, Joe Biden a fait ce qu'il fallait. Il me semble que l'électorat de Donald Trump ne bougera pas. Je parle des conséquences électorales parce qu'ils aiment l'idée qu'un homme fort peut vaincre un virus ou un ennemi mexicain ou que sais-je. Mais il y a une chose, à mon avis, que Donald Trump ne pourra pas éviter et qu'il voulait éviter, c'est que le virus et la santé soient le thème de campagne. Celui dont il voulait tourner la page, à la fois...
Ça revient, à la faveur de cette contamination.
Enfin, je ne vois pas qu'on puisse parler d'autre chose. On va surveiller sa propre évolution. On va discuter de ce qu'il aurait dû faire, ne pas faire, de ce que doivent faire les Américains, les gouverneurs, etc. Et particulièrement, le fait que, non seulement, vous dites, et c'est vrai, il n'y a pas de politique de santé fédérale, mais il y a des politiques locales, et au-delà du virus, il y a la question de l'assurance médicale. Et ça fait quand même des années, pas juste Donald Trump, que les Républicains promettent de remplacer Obamacare par quelque chose de formidable. Ça n'a jamais été fait. Les Américains perdent leur assurance médicale, pour certains, et ce sera au centre des débats.
Est-ce que ça arrive dans un moment où il décroche dans les sondages? Est-ce qu'il y a de la fébrilité dans l'entourage de Donald Trump et au sein du camp Trump d'une manière plus générale?
Oui.
Oui.
Ah oui. On est passé juste avant le débat, on était à moins 10, moins 12, maintenant on est à moins 14, moins 16. Sondage CNN aujourd'hui est à moins 16. Bon, ce sont des sondages, encore une fois, qui sont des sondages nationaux, donc qui ne veulent pas dire grand-chose sur ce qui se passe dans les fameux battlegrounds, les swing states, les états pivots. Mais tout de même, on voit bien qu'au sein de certains échantillons de la population, Biden est en train de reconquérir une partie de l'électorat, notamment par exemple les seniors, et au-delà même d'ailleurs des seniors éduqués ou des seniors blancs. Et donc on voit bien qu'il y a une bagarre qui est en train de se faire.
Pour quelle raison les seniors? Avec
probablement parce que le débat a montré, si vous voulez, pour une partie de cette génération qui a vécu à l'époque où on était un peu plus civil dans le combat politique, que voilà, ce débat était juste une catastrophe et d'un tel manque de civilité où finalement on ne laissait jamais parler l'autre et peu importait ce qu'on disait sur le fond, c'était juste une ambiance de cours de récréation. Je crois qu'une partie des gens qui veulent transmettre quelque chose aux générations suivantes se sont dit il y a un vrai souci. Et ce n'est pas possible que celui qui parle le plus fort ait raison. Donc il y a ça. Mais il y a aussi évidemment le comportement sur le terrain de la santé publique. Les seniors sont plus fragiles que les autres. Eux aussi payent très cher leurs assurances santé. Leur retraite, ils voient bien qu'effectivement, il faut que l'économie soit bonne. Et tout de même, ils se disent, ce président met en péril pratiquement notre devenir. On n'a plus beaucoup d'années à vivre et nos enfants et nos petits-enfants méritent mieux que ça.
Laurie Quinton, vous vouliez ajouter quelque chose?
François l'a fait sur les plus de 65 ans qui sont généralement assez sensibles aux questions de santé, et quand ils voient que Trump prend ça à la légère, ça coince, et ça on l'a déjà vu plusieurs fois qui baissait un petit peu. Il n'a pas besoin de perdre les seniors, mais il suffit qu'il perde quelques points ici et là et c'est très compliqué. Par contre, le sondage CNN, il faut se méfier parce qu'il a fait des yo-yo terrible ces derniers mois. Et donc, un coup, c'est plus 15, un coup, c'est plus 4, et les Républicains triomphent.
Et sur la fébrilité de son camp, est-ce qu'il y a des indications dans les déclarations récentes?
Là, en fait, on est dans un match de foot où l'équipe Trump perd 1-0 à la 80e minute. Il reste 10 minutes à jouer, il va falloir y aller. Et pour l'instant, il est quand même très dominé et il n'arrive pas à égaliser.
Donc, il va envoyer son meilleur joueur, voilà, Mike Pence. Allez, c'est lui qui a repris la main sur la campagne. Lui encore, qui débattra demain face à la colistière de Joe Biden. Mike Pence, le vice-président, est en première ligne depuis la contamination de Donald Trump. Cet homme austère, attaché aux valeurs morales, se définit lui-même avec cette phrase « Je suis chrétien, conservateur, républicain », dans cet ordre-là. Meyam Zehar, Aurélie Saner.
Main dans la main, Mike Pence et son épouse Karen s'apprêtent à s'envoler vers l'Utah. Le colistier de Donald Trump doit participer à un débat demain face à la démocrate Kamala Harris. Et il a la bénédiction du président.
J'ai parlé au président il y a un petit moment, il avait l'air bien. Quand le président m'a dit qu'il retournait à la Maison-Blanche, il m'a demandé de me diriger vers l'Utah, où nous attendons beaucoup du débat entre les vice-présidents.
Mike Pence, un vice-président désormais sous le feu des projecteurs, chargé de mener campagne. Testé négatif hier au coronavirus,
Il pourrait en théorie prendre le relais si Donald Trump se trouvait empêché d'exercer le pouvoir. Une surprise pour ce numéro 2, habitué à s'effacer. Un ultra-conservateur, pourtant élevé dans une famille catholique démocrate, aux origines irlandaises et allemandes. Né dans l'Indiana, il se marie en 1985 et a 3 enfants. Républicain convaincu, il a une idole, Ronald Reagan. Dans les années 90, il anime sa propre émission de radio. Mike Pence. Où il partage déjà avec ses auditeurs son attachement aux valeurs morales.
Alors comme ça, l'adultère n'est plus un problème en Indiana et en Amérique. Moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Parce que je pense que le 7e commandement de la Bible est toujours très important.
Élu à la Chambre des représentants en 2001, il devient gouverneur de l'Indiana 2 ans plus tard. En 2016, Donald Trump le choisit pour la première fois comme colistier.
Mike Pence a été mon premier choix. J'ai toujours admiré le travail qu'il a fait, particulièrement dans l'État de l'Indiana. C'est un homme droit, quelqu'un de solide.
Officiellement investi aux côtés de Donald Trump, Mike Pence devient la caution évangélique et chrétienne du président américain. Une stature austère qui tranche avec celle de son patron et un discours idéologique qu'il répète à l'envi.
Je suis chrétien, conservateur et républicain, dans cet ordre, et j'ai ma carte de membre de la NRA.
Mike Pence est un créationniste. Il considère que l'homme a été créé par Dieu à son image. Une vision du monde qui l'amène à ne pas croire à la théorie scientifique de l'évolution. Anti-mariage gay, anti-avortement, il participe à plusieurs reprises aux marches pro-life aux États-Unis.
Nous sommes les Pence et nous sommes pour la vie.
Il est à l'origine d'une des lois anti-avortement les plus restrictives du pays, qui interdit les IVG sur les fœtus souffrant de malformations. Mike Pence croit en une valeur, la famille.
Ma femme et moi sommes mariés depuis 35 ans.
Félicitations.
Je pense que nous ne sommes pas seulement en train d'assister à la renaissance de l'économie américaine, c'est aussi la renaissance de la famille américaine.
Discret et loyal pour ses fans, transparent pour ses détracteurs, It is Friday. Sa personnalité fait en tout cas le bonheur des late shows américains.
Mike Pence a eu le temps de tester sa stratégie politique. Être si ennuyeux que les gens oublient que tu existes. Il n'apporte rien, il n'enlève rien, c'est juste une pente verte.
Un vice-président qui ne serait pas une menace pour Donald Trump.
Pence n'a jamais montré l'envie d'aller à l'encontre de la volonté du président. Je pense donc que la possibilité d'une sorte de lutte de pouvoir pour savoir qui devrait être en charge est vraiment improbable.
Selon le Times, un sondage paru hier montre que Mike Pence pourrait être plus dangereux pour Joe Biden que Donald Trump.
Cette question, Mike Pence bénéficie-t-il d'une meilleure image que Trump ? Visiblement, oui. Enfin, ça dépend auprès de qui.
Non, auprès de l'électorat conservateur, oui. Auprès de l'électorat de Donald Trump, oui, évidemment. Mais au-delà de cet électorat-là, oui, chez les Républicains, il y a une forme de respect pour Mike Pence. Et donc, ça permet effectivement à Mike Pence...
Pour son parcours, pardon, François Clémenceau, oui, pourquoi ?
Son parcours d'élu, son parcours de gouverneur, sa loyauté vis-à-vis du parti, ça n'est pas un franc-tireur comme John McCain ou comme Rand Paul. C'est vraiment quelqu'un qui est... Ben, c'est un régagnien. Donc, il est resté dans la droite ligne, si vous voulez, du parti, extrêmement loyal, un bon fantassin du Parti républicain. Et donc, ça lui permet, si vous voulez, de s'adresser au-delà de la clientèle évangélique qui est la sienne, parce qu'il s'est converti en tant que catholique aux évangéliques, mais aussi aux électeurs républicains traditionnels, classiques. Et donc, ça permet d'accroître un peu cette marge. On passe de 37, 38 à 43, 44, 45. Et c'est grâce à lui aussi, parce que Donald Trump, si vous voulez, il est capable de dans ses discours, dans ses attitudes, il est capable de s'adresser bien évidemment à sa base. Et de temps en temps, il est tellement déconcertant qu'il peut aller apprivoiser comme ça quelques échantillons électoraux, parfois à droite, de temps en temps à gauche aussi. Pence, non. Pence ne va pas séduire ni conquérir l'électorat démocrate. Mais en revanche, dans le camp conservateur, il fait l'unanimité.
Surtout, il rassure, hein. Oui. Il rassure les républicains qui sont économiquement pas derrière Trump, hein. Tous ceux qui sont très libéraux au sens européen du terme, qui sont pour le libre-échange, pour le marché ouvert, etc., se reconnaissent dans Mike Pence, qui est vraiment un républicain traditionnel. Ils ont appris à l'aimer, mais en tout cas, Trump n'est pas du tout dans l'orthodoxie économique des républicains, du camp républicain traditionnellement. C'est vraiment, ils ont eu beaucoup de mal d'ailleurs, hein, au début à s'adapter. Pence en particulier est très apprécié des frères Koch, qui sont des industriels très très influents aux États-Unis, très riches, et qui incarnent plutôt la vision orthodoxe, donc très très libérale au sens européen du terme encore une fois, de l'économie. Et donc ça a été un choix très habile pour Trump de choisir Mike Pence comme vice-président.
Et ça s'est bien passé entre eux pendant tout ce temps, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont partis en claquant la porte, hein, des anciens proches de Trump qui maintenant font des livres qui se vendent très bien d'ailleurs, où ils disent les pires saloperies, j'ai envie de le dire comme ça, les pires méchancetés, on finit pas tous parler comme Trump, sur le président des États-Unis. Lui, ça s'est bien passé depuis le début.
Il est décrit comme un peu transparent. C'est vrai qu'il est là, il gêne pas, il attend son heure. Mais alors, le grand paradoxe, c'est qu'il plaît aux Trumpistes parce qu'il est avec Trump, mais il aurait été contre Trump dans une primaire, il se serait fait éclater. Pourquoi ? Parce que c'est un républicain normal. C'est un républicain traditionnel, donc il incarne quoi ? Il incarne l'establishment, il incarne le vieux parti républicain qui a été dynamité de l'intérieur par Trump. Et donc, sa planche de salut, c'est d'avoir été coopté par Trump. Sinon, en dehors de ça, c'est un républicain tout ce qui est plus normal, vraiment avec tous les états de service bien comme il faut. Mais au contraire, c'est ce qui a déplu à la masse populiste de l'électorat de Trump, parce qu'il est l'establishment.
C'est lui qui fait campagne, là.
C'est lui qui fait campagne, nécessairement, puisque Trump, bon, il tweet, il nous fait des images, mais enfin, il ne peut pas sortir. Je suis d'accord, je pense, avec vous tous pour dire que ce n'est pas le colistier le plus flamboyant. Et je pense que réellement, il représente, mais alors parfaitement, les évangéliques. Même au-delà du bon soldat républicain, c'est vrai, mais tous les républicains ne sont pas aussi axés sur la religion et la morale. Il représente les évangéliques à l'ère de Donald Trump de deux manières. D'abord parce qu'il a des convictions très conservatrices, ça a été très bien rappelé dans le sujet, anti-avortement, abstinence, créationnisme, pro-vie et en même temps pro-guns, enfin voilà. Oui. Il est sincère là-dessus. Il n'a jamais bougé, alors que Donald Trump a des convictions religieuses toutes nouvelles. Donc il est cet électorat évangélique pour qui la religion est la première chose, il l'a dit, et qui considère que Trump, eh ben, c'est d'une certaine manière l'envoyé de Dieu. Il n'est pas nickel, il n'est pas parfait, il est un peu grossier, mais il nomme à tour de bras des juges ultra-conservateurs, anti-avortement et pro-armes, qui remplissent les tribunaux fédéraux, qui vont certainement encore plus remplir la Cour suprême. Donc cet électorat-là, non seulement il se reconnaît dans Mike Pence, mais il vit comme Mike Pence. Ça ne fait toujours pas une majorité, néanmoins.
Vous vouliez dire un mot, Elsa Conessa ?
C'est
ce que vous vouliez dire. Alors, ce Mike Pence va se retrouver en débat. Alors, ce ne sera peut-être pas le débat qui va être plus suivi par les Français, mais je suis sûre que les uns et les autres ici, vous allez le regarder. C'est Mike Pence face à la colistière de Joe Biden, qui s'appelle Kamala Harris. Et c'est un tempérament. Et ce débat-là peut peser, oui ou non, sur la campagne, François Clémenceau.
Oui, alors ce débat sera presque sous le même format que celui entre Trump et Biden, sauf qu'ils seront assis et très éloignés l'un de l'autre, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, à la demande des démocrates qui ont dit non, pas 4 mètres, 7 mètres, et ensuite avec du plexiglas devant, derrière, pour protéger les uns des autres. Bref. Donc ça va être quand même, un peu, sur la forme, un peu bizarre. Sur le fond, le caractère des deux est quand même aux antipodes.
C'est ça.
On a d'un côté un ultra-conservateur, de l'autre côté une femme qui n'est pas une ultra-progressiste, mais qui a quand même un certain nombre, sur son CV, de titres, qui sont très prometteurs pour une femme qui fait de la politique depuis plus de 30 ans, qui a été procureure en Californie, qui s'est fait élire sénatrice, qui accumule tous les firsts, c'est la première femme noire à avoir atteint tous les postes qu'elle a eus, et qui est très engagée. On l'a vu dans le débat des démocrates au moment des primaires, lorsqu'elle a un mot à dire, parfois ça sort et ça sort et ça fuse. Donc elle a du caractère. Et en termes de personnalité, C'est vrai que ça va être violent, parce que vous avez d'un côté, un vieux blanc conservateur, et de l'autre côté, une jeune femme noire dans le camp progressiste, même si sur un certain nombre de sujets, elle est quand même plus conservatrice que la plupart du mainstream démocrate. Mais tout de même, je pense que ce contraste, si vous voulez, entre les deux, va être assez saisissant. C'est deux Amériques très différentes. On pourrait dire, avec la caricature, l'Amérique d'hier contre l'Amérique de demain. Mais tout de même, c'est un peu ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça ne veut pas dire que ce débat va changer les choses. Mais ce sera un moment intéressant dans la campagne, parce que elle, Kamala Harris... Enfin, on ne va pas l'écarter. Biden a dit départ qu'il serait un président de transition.
Et il a 77 ans, Biden.
Il a 77 ans. Et vous avez deux Américains sur trois qui pensent qu'il n'ira pas au bout de son mandat. Ils n'ont absolument aucune certitude là-dessus, mais ils se disent, s'il ne va pas au bout de son mandat, c'est clair que sa colistière devient la présidente des États-Unis. Et là, si vous voulez, ça donne à cette femme, j'allais dire, une dimension supplémentaire. La plupart du temps, quand vous voyez un vice-président sur un ticket... Ouais. Comme, je ne sais pas, Dan Quayle ou Al Gore à l'époque, c'était des jeunes et on se disait, bon, bah, ils feront les 8 ans si jamais leur patron est réélu. Ouais. Et puis après, ils se lanceront. Là, on sait qu'elle pourrait très bien arriver dans 2 ans, dans 3 ans.
Est-ce que c'est pour ça que Donald Trump la cible très régulièrement? Alors, il a dit plein de choses sur Kamala Harris. Il dit, les gens ne l'aiment pas, personne ne l'aime. À chaque fois qu'il peut la cibler, il le fait.
Oui, parce que finalement, c'est aussi contre elle qu'il fait campagne, beaucoup plus que contre ses vice-présidents habituels que François citait. Joe Biden, il aura 78 ans fin novembre, donc c'est tout proche. Et Kamala Harris, non seulement, si Biden était élu, elle pourrait être présidente pendant ce mandat, mais elle sera de toute manière en piste pour être la prochaine candidate démocrate. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle gagne, mais elle aura derrière elle tout l'appareil d'État, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que ce débat des vice-présidents, honnêtement, c'est généralement celui qui est le moins regardé.
Voilà, c'était la question que je voulais vous poser.
Mais là, entre un Donald Trump qui est malade et un Joe Biden qui semble fragile, je pense qu'il y aura un regain d'intérêt immédiat.
Une des raisons pour lesquelles il la cible aussi, c'est qu'elle est censée, elle est là pour incarner le vote des minorités. Je veux dire aussi, qui est-ce qui a fait des fois Hillary Clinton en 2016? Les minorités ne sont pas sorties, ne se sont pas mobilisées pour la faire gagner. Donc, elle représente un danger quand même pour lui. Je veux dire, si vraiment elle arrive à mobiliser les latinos, les noirs, ce qui est pas certain.
Ce qu'elle fait dans la campagne
Ce qu'elle essaye de faire, en tout cas. Après, elle a un pédigré qui est un peu particulier. Hein, elle est jamaïco-indienne, donc elle n'est pas exactement descendante d'esclaves. Mais en tout cas, c'est clairement sur ce terrain-là qu'elle va chasser. Et ça représente un danger pour Trump.
Et ça n'a pas marché pendant la primaire. Elle n'a pas eu l'électorat noir, c'est Biden qui a eu l'électorat noir. Donc ça, c'est peut-être un paradoxe en apparence. En revanche, ce qu'elle peut mobiliser, c'est les femmes. Si elle se fait attaquer en tant que femme... Parce qu'on a un problème, en fait, en sciences politiques, on a mesuré que les femmes ne jouaient pas sur le même tableau. C'est très injuste, mais il y a un concept qu'on appelle likability, donc l'amabilité. Et les femmes... Ce qui passe bien pour les hommes, c'est-à-dire un côté agressif, ambitieux, etc., c'est valorisé chez les hommes et pas chez les femmes.
C'est pour ça qu'il dit tout le temps Trump, elle est méchante. Il a utilisé des mots intraduisibles en français, mais l'idée c'était ça, c'est une femme méchante.
Il a essayé des tas d'angles différents, mais comme sur Biden, et rien ne prend en fait. Et c'est très agaçant pour Trump, à qui rien ne doit résister, c'est qu'il n'y a aucun angle d'attaque. Autant sur Biden, où il a tout essayé, que sur Kamala Harris, il n'y a rien qui semble prendre, en fait. Donc, elle est
les femmes, vous en parliez un instant, on y vient. Elles sont l'un des enjeux de ce scrutin de début novembre. Les femmes blanches ont voté à 53% pour Donald Trump à la dernière présidentielle. Le président déploie beaucoup d'énergie pour continuer à soigner cet électorat. Il a envoyé sa belle-fille, Lara Trump, avec un message aux mères de famille, l'ordre... C'est Trump. Juliette Vallon, Laura Rado.
Cela fait plusieurs semaines que ce bus rose sillonne les routes américaines. Les femmes avec Trump, ou l'opération séduction de la Maison Blanche pour convaincre l'électorat féminin de voter pour le milliardaire à l'élection présidentielle. En 2016, 41% des Américaines avaient voté pour Donald Trump. Mais selon une étude récente, elles sont aujourd'hui 55% à avoir une mauvaise opinion du président. Alors c'est Lara, sa belle-fille, qui parcourt les États en personne pour tenter d'inverser la tendance.
Comment ça va en Floride ?
Son message, Donald Trump est le seul candidat capable de rassurer les foyers en instaurant la loi et l'ordre dans le pays.
C'est très effrayant de voir dans notre pays le chaos, l'anarchie, les pillages. Trump est le premier à avoir dit aux maires américains « Je vous envoie la garde nationale ».
Et pour les supportrices de Donald Trump, peu importe ses sorties sexistes et les accusations d'agression sexuelle. La preuve, avec Carol Harris, cette Texane de 63 ans, fan de rodéo, avec qui nous avons pu nous entretenir via Internet.
Moi, je regarde Donald Trump avec les femmes. Je le vois soutenir les femmes, y compris au sein de ses entreprises, de son business. Je le vois mettre en avant les femmes. Je ne le vois pas les harceler. Mais vous savez, à part Jésus-Christ, personne n'est parfait. Je pense que ces gens qui critiquent le président feraient mieux d'aller vérifier qu'ils n'ont pas de squelette caché dans leur propre placard.
Mais des femmes déçues de Trump, il y en a aussi beaucoup. Marie, divorcée et mère de 3 enfants, ne sait pas encore si elle revotera pour le président, déçue par sa gestion de la crise du coronavirus.
Quand la pandémie est arrivée, je voulais un leadership fort. C'est la plus grande crise depuis le 11 septembre. À cette époque, j'ai vu George Bush monter sur les ruines et parler avec son cœur. Il a su rassembler le pays. Et Trump, lui, est incapable de faire ça.
Une pandémie qui fragilise des milliers de femmes américaines, obligées de rester chez elles pour garder leurs enfants privés d'école. C'est le cas d'Aracelis, 50 ans, agent immobilier. Son quotidien depuis des mois, faire la classe à son fils autiste, tout en continuant de travailler à mi-temps, sans aucune aide.
Mes revenus ont sans aucun doute beaucoup diminué, vous savez, et je remercie Dieu d'avoir un mari qui travaille à temps plein. C'est lui qui nous permet de joindre les deux bouts. Si j'avais été mère célibataire, je serais probablement SDF aujourd'hui. Je serais sans abri. Je n'aurais pas de maison. Nous n'aurions pas de nourriture dans notre réfrigérateur.
Près de 31% des femmes américaines ont arrêté de travailler avec la crise sanitaire, contre 11,5% d'hommes seulement. Une désocialisation et un sentiment d'abandon qui pourraient aussi, peut-être, se traduire dans les urnes.
Le Rickenton, ça pourrait jouer, ça? Ces 31% de femmes qui sont obligées de rentrer à la maison?
C'est là aussi il y a une injustice en fait entre les hommes et les femmes, mais il y a un deuxième niveau d'injustice, c'est entre les femmes mariées ou les femmes qui ont une famille et les femmes qui ne sont pas mariées. Il y a une étude de la Fed, je crois la Fed de New York, qui est sortie hier ou aujourd'hui, qui montrait justement ces disparités. Les femmes célibataires finalement s'en sortent mieux économiquement que les femmes mariées. Donc celles qui ont une famille se trouvent en gros pénalisées, et elles ressortent de la crise en fait très pénalisées sur le plan de l'emploi et sur le plan des revenus.
Et ça correspond plus à l'électorat de Donald Trump?
Une partie, oui. Après, ça dépend. Il y a des sous-électorats. Si on considère donc les femmes blanches, oui, c'est plus probablement des Trumpistes. Mais là, sur le coronavirus et sur l'économie, ça coince.
Qu'est-ce qu'il leur dit aux femmes, aux électrices américaines? Qu'est-ce qu'il leur dit, Donald Trump, dans la campagne? Il leur dit juste ce qu'on a vu dans le reportage avec sa nièce, là, hein, qui bat la campagne pour ramener l'électorat féminin. Il leur dit l'ordre, c'est lui.
Oui,
c'est
il
ça.
Leur parle de sécurité.
D'accord.
Et je n'ai pas vu de discours particulièrement ciblé sur la santé, l'éducation des enfants, les aides pour toutes ces femmes qui se retrouvent avec une charge beaucoup plus lourde à cause de la pandémie. Il leur parle de sécurité. Et sans employer le mot, il leur parle de race. Il leur dit les banlieues, c'est-à-dire là où habitent la plupart des gens autour des villes, les banlieues vont disparaître. Et ça veut dire les banlieues blanches, où vous êtes bien tranquilles, elles vont être envahies par des gens de couleur, parce que les démocrates ont des politiques pour faire baisser les loyers, les prix d'achat, subventionner, etc. Donc vous allez être envahis par des gens qui ne sont pas blancs, et vous allez être en danger. Et moi, je suis
la sécurité. Ça n'est pas formalisé voilà. De manière aussi claire, mais
exactement,
le message pour vous, c'est ça.
Mais le message, ouais. Il est absolument clair. Il est formulé autrement. Donc, la sécurité, la protection des banlieues. Et tout le monde comprend très bien.
François Clémenceau.
Oui, ce qu'on a vu en 2018 au moment des midterms, c'était déjà, si vous voulez, une anticipation de ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de femmes qui avaient voté Trump en 2016, beaucoup avaient voté en fait contre Hillary Clinton, ne se reconnaissaient pas dans le personnage, l'expérience et l'ambition d'Hillary Clinton. Et donc on votait Trump. Et là, 2 ans plus tard, on a vu un revirement. Beaucoup, vous avez vu beaucoup de femmes arriver au Congrès, beaucoup dans des circonscriptions où elles ont dû se battre dans des primaires contre des hommes, et elles ont suscité un engouement et ont réussi à renverser un peu la vapeur. Alors, sur plein de champs très très différents, et évidemment, comme ça se joue dans des circonscriptions très différentes, mais disons que les femmes qui ont voulu Trump, j'allais dire par défaut, pour battre Hillary Clinton, se sont retrouvées déçues par Trump et aujourd'hui se retrouvent contre Trump. Autrement dit, elles vont voter Biden, non pas parce qu'elles adorent Biden, mais parce que Trump a déçu. Et il a déçu sur les points qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire à la fois sur la légèreté, si vous voulez, dans sa façon d'être, à la fois sur son discours, évidemment, sur les femmes. En fait, il n'a pas de discours féministe, il n'en a pas. Et en même temps, sur cette sorte d'incarnation d'une Amérique qui serait l'Amérique traditionnelle, l'Amérique qui, en fait, est une Amérique qui est en train de disparaître. Donc, c'est être tout à fait lucide, si vous voulez, que de dire que, démographiquement, l'Amérique est en train de changer. Il incarne l'Amérique d'hier qui résiste et pas forcément celle de demain. Donc, les femmes des minorités, les femmes qui sont entre deux âges, oui, effectivement, elles, de façon assez lucide, elles vont voter contre Trump. Aujourd'hui, maintenant, on est dans les sondages, là encore, et il faut faire très attention, évidemment, parce qu'ils ne sont pas définitifs ni déterminants, mais on a maintenant 57-60% de femmes qui vont voter contre Trump.
Juste, pour tempérer un tout petit peu ça, au moment des midterms, c'était peu de temps après, je crois, l'affaire Kavanaugh, vous savez, qui a été nommé à la Cour suprême entre-temps, mais qui avait été accusé, ce juge, d'avoir tenté de violer une étudiante quand il était jeune. Moi, j'avais été très surprise à l'époque de découvrir qu'en fait, il y avait, dans le socle électoral de Trump, il y a beaucoup de femmes qui ne se sont pas du tout identifiées à Blasey Ford, qui était la femme en question, mais plutôt à Kavanaugh, en disant « ça aurait pu être mon fils ». Parce que mon fils, il est à l'université et il est à la merci de la moindre folle qui va l'attaquer en prétendant qu'il a essayé de la violer. Et donc, en fait, il n'y avait absolument pas de solidarité, entre guillemets, de cet électorat-là vis-à-vis de cette femme. Et donc, l'électorat de Trump, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi la Cour suprême, c'est aussi anti-avortement, la famille, c'est ce qu'on disait de Mike Pence tout à l'heure.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Covid ou pas, il réussit un vrai coup de pub bien à son image. C'est Michel dans les Alpes-Maritimes qui a l'air de trouver qu'il a plutôt réussi son coup.
C'est un showman. Et à chaque fois qu'il est en difficulté, ou pas d'ailleurs, il affiche, si vous voulez, une forme de politique par des mots simples, des slogans simples et des attitudes qui sont extrêmement lisibles de la part de tous. Donc, beaucoup de mise en scène. C'est un homme de marketing, c'est un homme qui sait vendre des marques, et la marque Trump, il sait la vendre, y compris lorsqu'il est en difficulté.
Ne vaut-il pas mieux un président combatif contre le virus comme Trump qu'un président distillant la peur comme Biden ?
Moi, je pense qu'il faut distiller la raison.
Oui.
Tout simplement, pas une peur panique, certainement pas, et pas la légèreté, parce que l'affaire est sérieuse. Et il y a beaucoup de présidents, depuis très longtemps, certains l'ont même formalisé, qui reconnaissent que ce poste de présidence, ils ont le bully pulpit, la tribune, en quelque sorte, le pupitre, voilà, j'y arrive. Ils doivent être pédagogues, ils ont une responsabilité de pédagogie. On pourrait très bien imaginer un président américain qui dise ben voilà les faits, voilà ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, voilà les mesures nécessaires, et puis voilà aussi les efforts qu'il faut faire pour que la vie continue.
Oui, mais pas Donald Trump.
Pardon ?
Mais non, pas Donald
non,
Trump.
Parce que Donald Trump, il n'a qu'un seul sujet, c'est lui-même. Et effectivement, son show, son arrivée en hélico, ben c'est de l'image. Moi, j'attendais juste la cape de Superman, j'ai été un peu déçue, mais oui, il vend Donald Trump. Il ne vend pas la santé des Américains.
Trump est sorti de l'hôpital pour la galerie, mais n'y a-t-il pas un centre de soins performant au sein de la Maison-Blanche ? C'est précisément ce que vous nous disiez tout à l'heure. Attention à ne pas se faire avoir non plus par la communication. C'est quitter un hôpital pour aller dans un autre hôpital peut-être.
C'est un peu moins poussé, mais il est quand même très très bien suivi par toute une ribambelle de médecins militaires parmi ce qui se fait de mieux. Il y a de l'équipement, ils peuvent parer à toute éventualité. Et puis, il sera quand même toujours transportable assez rapidement à Bethesda s'il faut. Mais ce qu'il y a dans cette séquence-là, c'est que tout va extrêmement vite, notamment avec Twitter. Et tous les journalistes sont sur Twitter, et donc tout va extrêmement extrêmement vite. Et donc, une séquence qui était un petit peu embarrassante pour Trump est remplacée tout de suite par une séquence grandiloquente qui va faire jaser dans les rédactions et plus personne ne parle, sauf nous, et c'est pour ça que nous sommes là, plus personne ne parle de la séquence embarrassante, en tout cas dans la logique de Trump. Mais le contraste qui est vraiment intéressant, c'est avec Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, puisque lui, c'était vraiment le pédagogue en chef, et ses conférences de presse, je connais des gens à Paris qui regardaient ses conférences de presse parce que c'était rassurant. C'était au début du confinement, tout le monde était un petit peu paniqué, et les conférences de presse du docteur Cuomo, ça rassurait tout le monde. Trump est incapable de faire ça parce que ce n'est pas son genre, mais c'est ce qu'on attend d'un président normalement.
Et hier matin, ce gouverneur a décidé de reconfiner 8 quartiers new-yorkais au moment où Donald Trump faisait son tour en voiture devant ses supporters. Quels sont les commentaires des médias américains sur l'attitude de Trump lors de son retour à la Maison-Blanche ?
Les médias, on en parle souvent dans cette émission, les grands médias américains, les grandes chaînes de télévision, les grands networks de chaînes d'information en continu et la grande presse libérale, elle est accablée par ce qui s'est passé. J'entendais sur CNN Jake Tapper faire un éditorial en ouverture de son émission de 4 minutes pour dire à quel point il était déçu de voir que le président jouait avec la santé des Américains. Et il y avait ce qu'on a essayé de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de respect pour la personne, pour dire on comprend, vous avez vécu quelque chose d'important, c'est de grave, mais s'il vous plaît, essayez au moins d'être à la hauteur de la fonction. Ce qu'on vous demande, on vous le demande en tant que président, pas en tant que républicain, pas en tant que candidat, en tant que président. Il y a un attachement aux États-Unis à ce qu'est le président des États-Unis. C'est quelqu'un qui doit incarner quelque chose. Et là, j'ai l'impression que, je ne vous parle pas des médias évidemment conservateurs, mais qui ont soutenu le président dès le départ, je vous parle juste de cette grande presse que Trump appelle les fake news. Il y a une inquiétude sur ce que devient la fonction présidentielle. Alors peut-être que c'est totalement has-been, que c'est ringard maintenant d'incarner comme l'a fait Reagan, comme l'a fait Bush, Clinton ou Obama, mais il y a une sorte de nostalgie d'une présidence pédagogue, on l'a dit, et qui essaye d'incarner
un autre discours. Ce qui est étonnant, c'est qu'il l'espère encore. Ce qui est étonnant, c'est que peut-être que, parce qu'on parle de la santé, donc c'est vraiment le sujet ultime, il y a eu cette surprise-là de la part des médias que vous évoquez, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'étonnent eux-mêmes encore de l'attitude de Donald Trump.
Oui, et en même temps, ça ne les rend pas absolument admiratifs, si vous voulez, de Joe Biden. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement durs et critiques aussi à l'égard de ces temps de retard, parfois la faiblesse de ses réactions. Donc, c'est pas comme s'ils avaient choisi un camp par rapport à un autre. Il y a une déception et qui dure. Et je ne vous parle pas d'autres chaînes qui sont plus violentes, beaucoup plus virulentes à l'égard du président, mais ça, on les connaît, et ce n'est pas les chaînes mainstream.
À qui profite la maladie de Trump à un mois de la présidentielle, à lui-même ou à Biden? C'est la question un peu qu'on pose depuis le début de cette émission. C'est très difficile, en réalité, de répondre à cette question.
Oui, non, c'est pas certain que ça fasse, que ça change le cours de l'histoire, hein, concernant l'élection. Je suis pas persuadée que, enfin, en plus, même ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le virus est le sujet qu'il voudrait absolument éviter. En fait, il l'appelle pas le virus, il dit c'est China Plague, c'est la peste chinoise. Donc, dire, ça rentre parfaitement dans son discours et sa rhétorique anti-chinoise. C'est-à-dire, c'est la peste importée de Chine et je l'ai vaincue. Voilà.
Que devient Melania Trump, testée positive au coronavirus en même temps que le président?
Elle devient Melania Trump, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, on ne l'entend pas, personne ne prend de ses nouvelles.
À part nous.
Et il y en a quoi là? C'est exactement ça, et il n'y en a que pour lui. Et elle savait dans quelle histoire elle s'embarquait, elle garde cette place.
C'est-à-dire que dans un autre cas de figure, avec un autre président, on aurait aussi eu des communiqués sur la santé de la Première Dame des États-Unis. Et là, ça ne s'est pas produit. Personne n'a communiqué sur son état de santé.
Juste au début, elle était peu malade. Voilà tout ce qu'on a su. Mais c'est vrai qu'elle a une place. Alors là, on parle de la place des femmes. Elle a vraiment une place extrêmement rétrograde.
La Maison-Blanche est-elle devenue un cluster ?
Oui, carrément. Oui, totalement. Oui.
12 personnes contaminées.
Allez, une dernière question peut-être très vite. Trump est-il réellement malade ou n'est-ce qu'un mensonge de plus pour remonter dans les sondages ? Alors non,
S'il avait vraiment voulu remonter dans les sondages, je ne pense pas qu'il aurait choisi cette option-là qui est quand même extraordinairement risquée.
Oui. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.